Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ensemble, jusqu'à 9h, temps universel, RFI vous donne la parole et profitez-en. Nous sommes vendredi, dans 30 minutes, vous pourrez bien évidemment commenter l'actualité de votre choix. Je peux vous dire qu'au standard et sur nos réseaux sociaux, plusieurs d'entre vous attendent ce moment pour nous interpeller sur le énième report des élections législatives au Togo. Vous êtes encore nombreux à réagir à la prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal et à la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Ministre, des réactions également sur le Mali, où la période de transition aurait dû prendre fin le 26 mars. On parlera également du Gabon avec le dialogue national qui s'est ouvert mardi, mais on attend toujours le début des débats. Voilà donc un aperçu des sujets qui ne vous laissent pas indifférents. Vous continuez à nous rejoindre, 33 9 693 693 70. La libre antenne, c'est donc à partir de 8h40 temps universel. Dans un instant, bien évidemment, vos questions sur l'actualité, mais d'abord un rectificatif. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service des sports de RFI. Hier, nous avons répondu à des questions sur la polémique que suscite au Cameroun le choix du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Et vous souhaitiez, mon cher Antoine, apporter une précision par rapport à votre intervention.
Oui, exactement. Un correctif par rapport à Benjamin Borloch, le nouveau coordinateur des sélections nationales camerounaises, nommé par le ministère des Sports. Nomination que la FECA Foot n'a pour l'heure pas encore entériné. L'ancien secrétaire général de la fédération nous a contactés pour préciser qu'il n'avait pas été suspendu par le président de la FECA Foot, Samuel Eto'o, contrairement à ce que j'ai pu dire hier par erreur, mais qu'il avait démissionné de ses fonctions en mai 2022, exprimant alors son désaccord vis-à-vis des méthodes de management et de gouvernance de la fédération.
Voilà pour ce correctif. Merci infiniment Antoine Grenier. Et on aura, je peux vous le dire, parce j'ai vu évidemment les réseaux sociaux des auditeurs qui souhaitent réagir à cette polémique autour du nouveau sélectionneur du Cameroun. Et on parle bien évidemment football. Vos questions à la rédaction. Je suis ravi d'accueillir Shinka. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à Marie Kazabébé et bonjour à tous les auditeurs de l'émission d'Appel sur l'actualité.
Je vois que vous êtes extrêmement bien informé car oui, c'est Marie Kazabébé, journaliste au service France de RFI qui va vous répondre. Bonjour Marie.
Eh bien bonjour messieurs, bonjour à tous.
Soyez la bienvenue Marie. Quelles sont vos questions Shinka?
Oui, pour lutter contre les influences étrangères sur l'islam en France, les hommes détachés n'ont officiellement plus le droit d'exercer sur le territoire français. Alors, Juan, j'aimerais comprendre, vont-ils être expulsés vers leur pays d'origine?
Alors, c'est une bonne question. Marie Kazadebé, peut-être avant de répondre à Shinka, un mot tout de même sur ce qu'est un imam détaché et la réalité de ce qu'il représente en France.
Oui, alors un imam détaché, en fait, c'est un imam étranger qui est payé par son pays d'origine pour venir officier en France. Trois pays avaient passé des contrats avec la France pour répondre à un manque d'imams, l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Alors, le Maroc a mis fin à cette pratique dès 2021 et jusqu'à il y a quelques semaines, il ne restait qu'un peu moins de 300 imams détachés sur les 3000 imams que compte la France. Il s'agissait donc de Turcs et d'Algériens.
Et donc, depuis lundi, depuis le 1er avril, ces accords bilatéraux qui existaient depuis les années 90 entre la France et ces trois pays n'ont plus cours. Que vont devenir les 300 imams détachés? C'est ce que nous demande Shinka.
Oui. Alors, soit ils font le choix de rentrer dans leur pays, soit ils ont dû changer de statut pour rester en France, puisqu'ils ne peuvent plus profiter de ces accords bilatéraux. Et donc, pour cela, pour obtenir un visa de travail en France, ils doivent être embauchés par l'association qui gère le lieu de culte, puisqu'en France, ce sont des associations qui s'occupent du fonctionnement des mosquées. Mais il faut pour cela qu'elles en aient les moyens. Et ce n'est pas le cas des plus petites. Les associations qui gèrent les mosquées sont financées par les dons. Ça peut être des dons de fidèles, de mécènes, ou bien des contributions de pays étrangers, des contributions aussi privées. Et c'est là que se trouve peut-être la solution pour certains lieux de culte. J'ai rencontré il y a quelques semaines Ibrahim Alsi, le responsable d'une association de mosquées franco-turques. Ankara a proposé à cette association d'augmenter ses dotations pour qu'elle puisse payer les salaires des imams turcs. Mais cette semaine, Ibrahim Alsi reconnaît que le dossier n'était pas encore réglé. Il est toujours dans l'attente du feu vert du ministère de l'Intérieur et sans ces fonds, impossible pour les mosquées turques d'embaucher les imams étrangers.
Vous avez une dernière question, Shinka?
Oui, doivent-ils suivre une formation particulière pour continuer d'exercer en France?
Est-ce que les imams étrangers vont devoir suivre une formation?
Et oui, et ça c'est nouveau. Alors il ne s'agit pas d'une formation religieuse. Hein. L'État ne peut pas imposer une formation de ce type, mais il s'agit d'un diplôme universitaire reconnu par l'État. Il est intitulé Laïcité, Religion et Citoyenneté. C'est le diplôme que doivent suivre les aumôniers qui interviennent dans les hôpitaux, les prisons et au sein des armées. Et les imams étrangers qui souhaitent rester en France devront également passer un examen de français. Le manque de statut légal de l'imam en France, le manque aussi de formation sur le territoire, les bas salaires expliquent en grande partie le problème du recrutement chez nous, sur le territoire français. Le gouvernement a donc décidé de maintenir la possibilité pour les mosquées de faire appel à des imams étrangers, mais seulement pour la période du Ramadan, puisqu'évidemment, les demandes, les fidèles sont bien plus nombreux dans les lieux de culte à ce moment-là.
Voilà donc pour vos explications sur la fin des imams détachés dans les mosquées en France. Shinka, on a répondu à vos questions?
Oui, merci et bonne journée.
Et bonne journée à vous. Merci de votre fidélité. Et les explications de Marie Cazadebé sont évidemment à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. 8h17 en temps universel. Bonjour Abel.
Johan.
Soyez le bienvenu. Vous êtes au Togo. Et vous avez des questions sur ce scandale qui secoue le Pérou, le Rolex Gate.
En effet, à cause du Rolex Gate, un tiers des ministres a démissionné. J'ai à ce sujet pour comprendre deux questions. Quelle est la principale accusation pesant sur la présidente?
Que risque la présidente? C'est vrai qu'elle est au cœur de ce scandale Rolex-Gate. Quand vous dites un tiers des ministres, effectivement, 6 des 18 ministres du gouvernement ont démissionné. Bonjour Evelyne Mescrier.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, spécialiste de l'Amérique latine andine. Comme son nom l'indique, le Rolex Gate, c'est une affaire qui fait référence à des montres.
Oui, c'est bien ça.
Et des montres de luxe.
C'est bien ça, des Rolex en particulier. Donc c'est une affaire qui a été initiée par un groupe de journalistes d'un journal indépendant, enfin d'un journal, plus exactement d'une chaîne indépendante qui s'appelle La Encerrona.
Oui.
Et en fait, ces journalistes ont fait une enquête et montré que la présidente portait effectivement dans certaines manifestations publiques des montres Rolex, alors peut-être une, peut-être plusieurs. Et donc cette enquête a effectivement déclenché une affaire qui est maintenant appelée le Rolex Gate. Mais il faut savoir aussi que la présidente est mêlée à d'autres affaires. Alors, la plus importante, c'est celle de l'assassinat d'une cinquantaine de personnes lors des manifestations qui ont eu lieu fin 2022, début 2023, en réaction à la destitution du président Castillo, qui lui-même avait, en décembre, initié un autocoup d'État. Et puis il y a aussi d'autres affaires qui tournent autour de la présidente, comme la mauvaise gestion de l'argent du club départemental dont elle était responsable.
En tout cas, c'est cette dernière affaire, le Rolex Gate, qui est la goutte qui a fait déborder le vase et qui finalement a poussé une partie de son gouvernement à jeter l'éponge et à démissionner.
En fait, diffère un peu si on écoute les intellectuels péruviens, les personnages politiques péruviens qui interviennent actuellement dans les médias, puisque apparemment ce changement de ministre pourrait répondre aussi à une négociation avec les partis politiques qui sont représentés au Congrès. Alors, il faut savoir que le Congrès est aussi derrière la permanence de cette présidente, puisqu'en fait, si cette présidente, qui était elle-même vice-présidente, donc qui a accédé au pouvoir en remplacement du président Castillo, si elle-même était destituée, il n'y aurait plus de vice-président ou vice-présidente pour la remplacer. il faudrait aller à de nouvelles élections et donc les membres du Congrès devraient eux-mêmes être remplacés, ce qui n'est pas du tout dans leurs intérêts.
Ouais,
donc on pense en fait qu'il y a eu une manipulation, une négociation plus exactement, pour remplacer un certain nombre de ministres au cours d'une sorte de négociation entre l'exécutif et le législatif.
Alors ça c'est de la politique politicienne, mais c'est bien évidemment d'avoir vos explications, Evelyne Mesclier. La présidente, on n'a pas donné son nom depuis le début, elle s'appelle Dina
Boluarte.
Boluarte, bien évidemment, exactement. Bon, elle fait l'objet d'une enquête, c'est-à-dire que la justice s'intéresse justement à ces montres de luxe. Que risque-t-elle désormais ?
Alors justement, je parlais du Congrès parce que justement, ce qu'elle risque, c'est lié aussi à ces négociations, bien sûr, puisqu'en fait, elle est donc l'enquête qui est menée actuellement porte sur un enrichissement illicite, sur une omission de déclaration, mais bien sûr, derrière cette affaire de montre, il y a aussi une possible affaire de corruption, tout simplement, puisque la montre, lui, aurait été offerte par le gouverneur régional d'Ayacucho. Et donc, dans une situation normale, avec d'autres affaires en cours, on pourrait penser que cette présidente serait proche de son départ.
D'accord.
Mais compte tenu du fait que le Congrès n'a aucun intérêt à son départ, en fait, il est possible qu'elle reste encore un certain temps au pouvoir sans que cette affaire, en fait, aboutisse à sa destitution.
Ouais, en tout cas, ce qui est important, parce que je me suis penché évidemment sur ce scandale, et j'ai appris qu'au cours de ces trois dernières décennies, à l'exception de deux présidents, tous les autres ont été incarcérés ou inculpés pour corruption.
Et oui, malheureusement, c'est effectivement le cas. C'est effectivement, vous parliez de politique politicienne et de. Alors, le problème, bien sûr, c'est non seulement la corruption, mais en fait le pouvoir de véritables mafias qui sont bien installés aussi au Congrès, puisque plusieurs membres du Congrès, en fait, ont des affaires très, très importantes en cours. D'où leur intérêt aussi de rester au pouvoir. Et en fait, ce qui est très très grave dans le cas du Pérou, c'est que le pays est pratiquement à l'arrêt du fait de ces problèmes, de cette instabilité politique qui est liée bien plus profondément à des problèmes de pouvoir des mafias dans le pays.
On aura certainement l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'était passionnant, Evelyne Mesclier. Je pense qu'Abdel a appris plein de choses également. Abel ?
Oui, je suis satisfait, ça me va, c'est bon.
C'est bon, bon, bah bonne journée, merci à vous et continuez à nous écouter au Togo.
Merci beaucoup, à vous, pareil.
Merci à Evelyne Mesclier, directrice de recherche à l'IRD, spécialiste de l'Amérique latine. Andine, Tim nous rejoint au standard, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous avez des questions sur l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma ?
Exactement. Jacob Zuma a été exclu de l'élection législative par la commission électorale. Mmh. L'ancien président sud-africain peut-il contester cette décision ? Son parti, le MK, fait planer un risque de violence. Est-ce une menace sérieuse ?
En tout cas, la menace, elle est prise au sérieux. On va voir ce qu'en pense Marianne Séverin. Bonjour.
Bonjour.
Chercheur associé au laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde, Sciences Po Bordeaux, spécialiste de l'Afrique du Sud, Zuma, qui comptait sur les élections du 29 mai pour faire son grand retour sur la scène politique après avoir été poussé à la démission il y a quelques années. Finalement, il ne pourra pas participer au scrutin.
Non. En fait, il faut rappeler certains faits. Il s'avère que Jacob Zuma avait été condamné à une peine de 15 mois de prison en juin 2021. Bon, il a été relâché quelques mois plus tard pour des questions médicales, mais sa condamnation était due au fait qu'il ne s'était pas présenté à la commission d'enquête sur le step capture, donc grand fait de corruption. Voilà. Or, la loi sud-africaine dit que lorsqu'on veut se présenter aux élections, on ne doit pas avoir été condamné à plus de 12 mois de prison, ce qui n'est pas son cas. Alors même s'il n'a fait que quelques mois, la peine est toujours là, donc il ne pourra se représenter que dans 5 ans.
Ah oui, donc il est disqualifié, peut-il faire appel ? Je parle sous votre contrôle, Marianne Séverin, il me semble qu'il l'a fait. Cette semaine.
Oui, il a fait. Donc, en fait, il a fait appel auprès de la commission électorale et la Cour de justice devra rendre son verdict le 9 avril.
La semaine prochaine.
Très bientôt, oui. La semaine prochaine.
Alors, voilà. Ce qui est intéressant, et je comprends la question de Tim, c'est que les partisans de Jacob Zuma menacent de semer le chaos si ce nouveau parti, le parti pour lequel briguait Zuma, était interdit des élections. C'est une menace qu'il faut prendre au sérieux ?
Alors, c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'ils vont semer la violence dans toute l'Afrique du Sud, parce que je doute fort que la majorité des Sud-Africains iront descendre dans la rue pour défendre la cause de Jacob Zuma.
Qui reste populaire quand même.
Il reste populaire, mais notamment au KwaZulu-Natal. Mmh. Voilà. Circonscrit au KwaZulu-Natal. Alors, le gouvernement avait déjà annoncé que toute tentative de violence serait punie par la loi, et il s'avère que un de ses lieutenants, qui est également sur la liste législative, a été rappelé à l'ordre et normalement devrait être. Donc, il est passé devant la justice et paradoxalement, il sera accusé d'avoir enfreint la loi de 1956 pour incitation à la violence. Alors, j'insiste bien sur 1956, parce que c'est une loi qui a été votée durant la période d'apartheid et qui avait été utilisée contre les opposants au régime. Donc, elle est remise au goût du jour, vu les circonstances.
Ouais. Bon, en tout cas, on va suivre évidemment déjà le verdict de la commission électorale concernant Jacob Zuma, l'ancien président, à bientôt 82 ans, et voilà, il ne veut pas partir à la retraite. Il a envie de s'impliquer davantage et surtout, pour dire clairement les choses, de mettre des bâtons dans les roues à l'ancien parti qu'il dirigeait, l'ANC, parti fondé, rappelons-le, par Nelson Mandela. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Marianne Séverin. On va prendre rapidement la dernière question de la semaine. Sidiki Gladys. Allô ?
Allô.
Oui, c'est à vous. Soyez le bienvenu.
Bonjour, chers auditeurs de la grande radio RFI.
Merci d'être en Guinée et de nous appeler. Vous avez des questions sur l'Arabie Saoudite.
Oui. Pour la première fois, l'Arabie Saoudite a décidé d'envoyer une candidate pour le concours Miss Univers. Comment peut-on expliquer cette décision?
Ah, c'est vrai que ça peut paraître surprenant. On sait que l'Arabie Saoudite est un pays ultra conservateur. Bonjour Louis Blin.
Bonjour.
Vous êtes historien, diplomate, directeur du programme Moyen-Orient à l'Institut universitaire européen de Florence. L'Arabie Saoudite accepte d'être représentée pour la première fois au concours de Miss Univers. Que faut-il comprendre ?
Alors tout d'abord, je souhaite bonne chance à la candidate qui montre qu'il y a de jolies femmes en Arabie Saoudite. Ça ne manque pas dans le monde arabe. D'autre part, l'étonnement de votre éditeur est à l'unisson de la méconnaissance de l'évolution récente de l'Arabie Saoudite dans le monde d'aujourd'hui. L'Arabie Saoudite n'est plus du tout le pays ultra-conservateur que l'on en croit. Et la meilleure preuve de cela, c'est que cet étonnement n'existe pas en Arabie. En Arabie, les Saoudiens et surtout les Saoudiennes pensent qu'il s'agit tout simplement d'une normalisation et que cet événement n'en est pas vraiment un. C'est simplement la suite de toutes les améliorations apporté à la condition féminine.
Alors, il y a eu des changements, effectivement. Louis Blin, il y a eu des changements ces dernières années, je vous l'accorde. Et d'ailleurs, la candidate en question, c'est elle-même qui annonce sa participation au nom de l'Arabie Saoudite à ce concours. Et on la voit, elle est en robe à paillettes, elle a les épaules dénudées. Et je peux comprendre que notre auditeur à Conakry, voilà, se dise tout de même surpris. Et en même temps, il y a certes des avancées, mais le royaume continue d'être critiqué par les organisations de défense des droits humains concernant le respect des femmes.
Alors, ce qui importe surtout dans l'événement, c'est la personnalité de la candidate. C'est une femme polyglotte, diplômée, qui montre que l'évolution de la société saoudienne n'est pas le fait du prince, en l'occurrence le prince héritier, mais un phénomène qui vient du bas. Hein, c'est une lame de fond.
Oui.
Donc, c'est l'Arabie saoudite dans son ensemble qui évolue.
Qui évolue et donc d'où la présence de Rumi Al-Khantami, donc c'est le nom de cette femme de 27 ans qui représentera le royaume au concours Miss Univers en septembre prochain et la cérémonie se déroulera au Mexique.